Tout âgé.
Quand on a commencé, il y avait deux chaînes.
Brisé.
Mais c'est pas intéressant pour ces idées-là. Elle est à 20h.
Martyrisé.
Quand on a commencé, il y avait trois radios qui comptaient.
Quelque chose qui ne devrait pas être dit.
Maintenant, il y en a des centaines.
Peut encore être dit. Mais
libéré. Ouais.
Je suis sur une radio généraliste, donc je tiens compte des grands courants.
Il y a quelqu'un qui l'entendra, et puis ça ressortira.
C'est parti pour une nouvelle émission de Presse Libérée en direct avec Radio MNE, qui est basée à Mulhouse. Nous sommes actuellement à Cévennes pour le festival FestiDébat, qui conclut ce troisième forum ouvert sur l'éducation aux médias, la raison pour laquelle nous sommes venus en Alsace. Alors, autour du plateau, nous avons Sylvain Offray-Bourget, Jocelyn Perret, Jacques Béra, Ninon Huberschlag et Jeanne Roy et Luc Huberschlag. Et nous attendons Monsieur Müller, Michel Müller de l'Alter Presse, qui n'est pas encore arrivé. Alors, Presse Libérée, c'est une émission qui est diffusée chaque mois sur les autres radios que nous allons saluer. Donc, nous avons La Clé des Ondes à Bordeaux, nous avons Radio Béton à Tours, nous avons Fréquence Paris Pluriel, Radio Zinzine et Radio Galère, Nebia Campus Corté, Radio Happy Meilleur à Embrun et Radio Dragon. Alors, pour commencer, on va parler de la première raison pour laquelle nous sommes venus ici. On va parler de ce forum sur l'éducation aux médias. Alors, Sylvain, est-ce que tu peux nous en dire deux mots de la raison pour laquelle ce forum a été lancé ?
Donc en fait, c'était Radio MNE, l'association Old School, qui a lancé ce forum en 2016, hein, la première édition il y a deux ans. Donc c'était un partenariat avec la direction régionale de jeunesse et sport, hein, direction régionale et départementale, donc quand même quelque chose de relativement institutionnel dans les financements, dans le projet, avec pour but, hein, comme on entend souvent parler ces derniers temps, de lutter contre les dérives d'Internet auprès des jeunes, des questions des profs, des éducateurs, animateurs, éduc-pop, etc., etc., pour justement les mieux les former à l'éducation aux médias, et voilà. Donc c'est vraiment dans ce but que s'est créé le forum. Ce qui est intéressant dans l'élaboration du premier forum, c'est qu'il s'est enrichi de pas mal de contributions différentes, hein, de gens de milieux différents, tel qu'on l'a élaboré. Donc Luc, tu t'en souviens aussi, on avait rencontré des gens de la CPML, la coordination permanente des médias libres, un réseau dans lequel on était mais avec lequel on frayait pas trop finalement. Et puis on est allé à leur rencontre nationale, on a rencontré plein de gens qui continuent à venir maintenant, hein, des assos comme Les Pieds dans le PAF à Saint-Nazaire, voilà, c'est ça, TV Bruit à Toulouse, Patatras à Lyon, enfin on pourrait en citer plein comme ça. Des médias un petit peu différents, des gens qu'on connaît par nos réseaux Ritimo aussi, plus Solidarité Internationale, Radio Campus, tout ça, ça faisait un ensemble avec d'un autre côté l'éducation nationale, le CLEMI qui est le service de l'éducation nationale qui s'occupe d'éducation aux médias, des gens qui venaient plutôt de centres socioculturels, de partenariats locaux, MJC et compagnie, et puis donc tout ça, ça faisait un ensemble de gens qui œuvrent dans l'éducation aux médias, mais qui se retrouvaient rarement au même endroit.
Et c'est la première fois que vous faisiez qu'il y a un forum d'éducation aux médias en France ?
En tout cas, on n'avait rien repéré du même genre, hein. Il y a par exemple à Lyon un forum qui s'appelle Super Demain, qui est pas mal axé là-dessus, mais avec plus un côté très très numérique, promotion du numérique, j'allais dire, ce genre de choses, qui parlent aussi éducation aux médias. Enfin, on peut citer comme ça des trucs, mais pour les gens, par exemple, de la coordination des médias libres, qui beaucoup commençaient à s'intéresser à l'éducation aux médias d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour rentrer un peu d'argent, hein, pour le côté militant, pour plein de choses. Il y avait des discussions comme ça lors des rencontres nationales de la CPML. Et finalement, le fait qu'on propose un forum, qu'on débarque là-bas, et ben, les gens se sont dit, ah ben ouais, ben très bien, l'éducation aux médias, on va en parler à Mulhouse. Et c'est comme ça que s'est créé un réseau totalement informel d'associations nationales qui viennent nous voir, avec qui on a fait connaissance, je pense, en grande partie grâce au forum quand même.
Alors, l'une des raisons pour lesquelles ce forum, c'est vous qui l'avez lancé, c'est parce que Radio MNE est en première ligne sur l'éducation aux médias. Ouais. et que toi, ton poste, c'est responsable éducation média.
Ou responsable animateur, hein, ça suffira. Bah, en fait, à la base, mon poste, c'était vraiment de coordonner le premier forum d'éducation média. Je travaillais déjà un peu comme ça en freelance ou en bénévole pour l'association depuis des années, mais vraiment, quand j'ai été engagé, il y a deux ans, c'était deux ans et demi, c'était pour coordonner ce premier forum. Donc par la suite, hein, une fois le forum fait, je suis resté dans l'association, plus pour assurer des ateliers qu'on fait en nombre, comme c'était vraiment ça le besoin, au point que c'est devenu mon boulot principal en fait.
Le forum, ça permet à la fois de donner des compétences pratiques à ceux qui viennent et en même temps de pouvoir rencontrer et faire fleurir ce réseau, comme tu disais. Alors on va écouter une interview qui a été faite par des gens qui sont venus d'Île-de-France. On a Starting Block et L'œil à l'écoute. On va commencer par les gens de Starting Block qui nous vont nous raconter ce que fait cette structure.
Une association d'éducation populaire. On fait de l'ECS, donc de l'éducation à la citoyenneté et la solidarité. Donc en gros, on anime des ateliers avec des thématiques très différentes. La citoyenneté, la question du système agricole, de l'alimentation, du handicap, des inégalités de genre, etc. Donc des thématiques très différentes. Avec des publics aussi différents, donc dans les collèges, les lycées, les milieux socio-culturels, donc voilà, les milieux sont aussi très différents, avec donc des méthodologies de l'éduc-pop participative. Ensuite, on fait aussi partie d'un réseau qui s'appelle le Réseau Sens. Alors le Réseau Sens, c'est un réseau d'associations d'éduc-pop.
C'est un réseau qui regroupe d'associations étudiantes et ou de jeunes qui font comme nous de l'éducation à citoyenneté et solidarité. Et du coup, c'est un réseau qui a pour vocation de mutualiser nos actions, nos pratiques, nos outils et d'apprendre ensemble à s'améliorer, à faire de nouvelles choses. Enfin, nous, on s'intéresse à la question des médias aussi parce qu'on travaille beaucoup sur comment on rend chaque acteur citoyen et acteur de sa propre vie. Donc la question, c'est aussi d'avoir conscience des enjeux qui se cachent derrière les médias qu'on utilise au quotidien. Donc à la fois des enjeux humains, environnementaux, d'accès à une information qui est plus ou moins objective ou plus ou moins dictée aussi par des impératifs économiques. Donc pour nous, c'est important que tout le monde ait conscience de ces enjeux-là pour pouvoir en faire une utilisation qui est raisonnée et raisonnable. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Après, comme les médias sont en constante évolution, en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on suit le mouvement et qu'on s'adapte aux pratiques en fait, des jeunes et des moins jeunes pour pouvoir à chaque fois rester au plus près des problématiques qui se posent. Je pense qu'il y a plein de choses qui se font, qui ne s'appellent pas toujours éducation aux médias, mais en tout cas qui en font beaucoup. Mais du coup, ce qui est important aussi, c'est qu'on puisse mutualiser les choses, qu'on puisse se rencontrer et construire des choses ensemble plutôt que chacun dans notre coin. Mais du coup, nous, c'est une des thématiques sur lesquelles on travaille et c'est une des thématiques sur lesquelles travaillent nos partenaires et les membres de notre réseau, donc on essaye de travailler ensemble sur ça et puis de se rapprocher d'autres acteurs comme ceux d'aujourd'hui, des réseaux d'associations libres et qui font de l'éducation aux médias pour justement qu'on voit un peu ensemble ce qu'on peut faire et s'inspirer les uns des autres.
C'était globalement la ligne directrice de ce forum, pouvoir se rencontrer et être solidaire et s'enrichir des savoirs les uns des autres. C'est aussi un des projets, peut-être le projet principal de l'association L'œil à l'écoute, qui est elle aussi basée en Île-de-France et qui nous raconte ce qu'ils font.
Alors c'est une association qui fait la promotion des actions radiophoniques. On a pour idée que c'est un bel outil d'émancipation et d'éducation. Nous sommes basés à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, donc on est contre Paris, tout contre. Mais effectivement on travaille avec Radio Campus Paris qui est notre diffuseur sur l'Île-de-France.
Et alors comment est-ce que vous définiriez votre action et le sens que vous mettez dans l'éducation aux médias ?
On a mis un sous-titre qui s'appelle « Action radiophonique » pour que ça reste très ouvert, être dans l'action, c'est-à-dire dans la participation surtout, ce soit les personnes avec qui on fait ça, qui fassent tout, qui le fassent, qu'elles s'y collent, qu'elles essayent. Ça peut être des jeunes, ça peut être des adultes, n'importe, on est vraiment tout public, c'est le principe de l'éduc-pop. On apprend beaucoup de nos participants aussi, on leur ouvre la porte, on leur donne les outils et puis on voit ce que ça fait. Alors on fait beaucoup d'émissions de radio à l'ancienne. On aime beaucoup l'AFM classique, la radio en vrai. Et donc là, c'est la fréquence en région parisienne de Radio Campus Paris. Après, c'est diffusé aussi sur le web. Mais on fait aussi de temps en temps des projets de création sonore au plus petit.
Alors si on veut vous écouter, il faut aller sur quel site ?
Alors www.radiocampusparis.org. Et là, vous avez le streaming tous les samedis à 18h. Sinon, vous cherchez L'œil à l'écoute et il y a les podcasts. Ce que je voulais rajouter, c'est que nous, on est vraiment en idée qu'on veut transformer nos participants en chroniqueurs de leur vie, de leur coin de vie. Et la Seine-Saint-Denis étant tellement maltraitée par les médias qu'on s'est dit qu'il faut absolument qu'on rende au territoire, aux gens du territoire la possibilité de s'exprimer. Alors, c'est pas toujours très adroit, c'est pas toujours réussi. Mais nous, c'est vraiment notre démarche, c'est redonner le pouvoir aux personnes de dire en Seine-Saint-Denis, il y a peut-être des soucis, mais il y a plein de trucs chambés.
Donc pour vous, éducation médias et création de médias, en fait, ça va forcément ensemble.
On n'est pas un média à part entière, mais on transmet notre savoir-faire dans le média. Nous, on aime bien de toute façon les choses qu'on construit, les trucs où on travaille ensemble. Et il vaut mieux travailler avec quelqu'un qui sait déjà faire un truc bien et que de faire à sa place mal et se séparer, autant se mutualiser. Et je crois que c'était un peu le sens du forum là sur l'éducation média, c'est qu'on sera toujours plus fort à plus.
Ninon Huberschlag, toi aussi tu es responsable à MNE de l'éducation média. Est-ce que tu partages cette vision du faire ensemble et d'apprendre?
Tout à fait, ouais. C'était d'ailleurs un peu un objectif qui s'est senti beaucoup l'année précédente sur la deuxième édition du Forum Ouvert où on a vraiment rassemblé nos compétences, nos expériences, nos problématiques surtout. Et cette année, ça s'est vachement bien retrouvé avec justement un peu cette ouverture médiatique. Puisqu'effectivement, du coup, l'éducation en médias rejoint de près ou de loin toujours un peu un média. Et là, ça s'est vraiment vu sur cette édition du forum. Entre acteurs de l'éducation en médias, on s'apprend plein de choses et on se rejoint, effectivement.
On se rend compte que l'éducation média, ça veut dire plein de choses et il y a plein de façons de la considérer et de la mettre en action, en fait. Et c'est aussi riche de pouvoir confronter les différentes approches et les différentes façons de faire. On va enchaîner avec l'association J'ai d'encre qui permet aux jeunes jusqu'à 25 ans de pouvoir créer leurs propres médias.
J'ai donc, c'est un réseau national de jeunes qui créent des médias, donc des jeunes de 11 à 25 ans qui à un moment font le choix de créer un média pour s'exprimer, donner leur opinion. Ça peut être dans un cadre collège, lycée, fac, dans leur quartier, dans leur ville, dans un centre social, une MJC. Enfin, il y a mille et une manières de créer son média. Nous, on en recense à peu près 700 chaque année, avec un turnover important, puisque tu restes pas jeune très longtemps en réalité, il paraît. Et du coup, au bout de 2-3 ans, en général, l'équipe change et du coup, le média soit continue et se renouvelle, soit meurt et il y a quelque chose d'autre qui se crée. Voilà.
Et tous ces médias, ils sont recensés sur votre site internet ?
On essaie. Il n'y a pas d'obligation de se recenser auprès de nous. On essaie de les fédérer au maximum et de leur donner des outils. En effet, il y a une carte sur notre site où tu peux retrouver pas mal de journaux jeunes. Ouais.
Alors, l'éducation média, pour toi, ça veut dire quoi ? Pourquoi faire ça ?
L'éducation média, en fait, c'est assez marrant parce que depuis 2004, on existe, J'ai d'encre. Et en fait, pendant très longtemps, on n'a jamais utilisé ce mot « éducation aux médias ».
Alors l'éducation média, c'est quoi ? C'est la question que je vais encore vous poser. Pour toi, l'éducation média, ça correspond à quoi ?
C'est hyper compliqué de répondre à cette question. Vraiment, c'est vaste et c'est même un mot qui commence à faire peur. Moi, je trouve que ça commence à devenir presque un gros mot, l'éducation média. Pourtant, je le pratique tout le temps, constamment.
Alors je vais peut-être poser la question différemment. Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire de l'éducation média ?
Qu'est-ce que j'ai envie de faire de l'éducation média ? J'ai envie que ce soit ouvert à tous, déjà, en fait. Que ce soit accessible pour tous. Donc nous, sur Mulhouse, effectivement, on intervient vraiment régulièrement, 4-5 fois par semaine, en établissement scolaire, petit, grand, fac, collège, lycée. Mais ce n'est pas accessible à tous.
Ça va beaucoup dépendre des enseignants et des autres professionnels qui vont faire la démarche, hein, qui leur prend beaucoup de temps, hein, absolument pas dans leur temps de travail normal, pour justement mener à bien ce genre d'action. Et souvent, on rencontre des enseignants vraiment formidables, enfin, qui ont vraiment la volonté de proposer des choses différentes à leurs élèves. Après, est-ce que ça devrait être justement plus généralisé à l'ensemble des élèves, avec peut-être un petit côté un peu moins libre aussi, du coup, parce que ça rentre dans un programme scolaire, machin, ça s'apprend comme l'histoire, comme les maths, vaste débat. Là où je suis content vraiment dans cette activité, c'est qu'on n'a vraiment pas l'impression de perdre notre temps. On n'a jamais l'impression que les élèves partent de là en voilà, c'est un cours de plus. Pareil pour nous, c'est à chaque fois une rencontre, quelquefois on a aussi appris d'eux. Ça c'est génial, et puis ce que je voulais aussi rajouter c'est que parmi les manières de pratiquer l'éducation média lors du FOM ces derniers jours, j'ai suivi un atelier des petits débrouillards qui donc aussi ont une approche, un atelier d'éducation média avec des classes où ils ont un point de vue un peu plus théorique, lecture de l'image, etc. Nous on est plus dans la pratique, réaliser une émission de radio avec tout ce que ça implique, et il y a plein d'approches qui sont vachement complémentaires, comme ça pourrait être génial d'avoir justement des parcours un peu différents avec différentes assos qui ont chacune leur manière de pratiquer l'éducation aux médias. Voilà, il y a plein de choses à faire, c'est un vaste champ libre encore, l'éducation aux médias.
Alors on espère que vous allez réussir à faire un espèce de réseau régional ou au moins départemental d'éducation média.
National. Mais... Non mais vraiment, ce qui est génial avec le FOM, c'est justement de mettre autour de la table des gens qui ont cette pratique autour de la France, parce qu'il n'y a pas tant d'assos que ça. Donc pourquoi pas des prochains FOM co-organisés, peut-être même ailleurs qu'à Mulhouse, soyons complètement fous quoi.
Alors on fait passer le mot, on se rassemble. Ninon, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ?
Non, après pour répondre encore à ta question, qu'est-ce que je voudrais pour une éducation médiale ? Ça commence à engendrer des discussions politiques tout doucement, ça fait déjà un petit temps, mais là aujourd'hui... avec le gouvernement et tout ce qui est fake news, et c'est super à la mode, et il faut absolument prévenir les enfants, attention au secours, faites attention aux réseaux sociaux. Je pense que c'est vraiment un domaine qui n'est pas à prendre à la légère, et des vraies réflexions à avoir avec des personnes qui nous dirigent, et des personnes qui font l'éducation nationale, etc. Donc, travailler ensemble avec les assos, avec les institutions, avec les enseignants, je pense que ça va devoir être nécessaire, et je le souhaite pour l'éducation aux médias.
Est-ce qu'on doit comprendre que le problème c'est plus une question de volonté politique ou c'est plus une question de financement justement pour pouvoir avoir plus d'ateliers dans toutes les écoles, que ce soit plus généralisé?
Ça va ensemble, mais je dis ça ressort de plus en plus politiquement. Je vais pas donner un faux chiffre là à la radio, mais il y a eu la ministre de l'éducation, de la culture, Madame Nissen, qui a annoncé doubler le chiffre destiné au budget de l'éducation aux médias. On peut se poser la question dans quel sens ça va aller, ça va revenir aux assos pour construire des choses ensemble. Est-ce que tout va être centré sur l'éducation nationale? Après, est-ce que ça bloque? Est-ce que ça ouvre? Sylvain, peut-être.
À la fois c'est perçu comme un secteur prioritaire, en même temps il n'y a pas non plus des tas de financements. Dans la région Grand Est, on a le mois de l'autre qui permet au lycée de financer un atelier comme on les fait par exemple. Bon, il y a différents programmes, les collèges à Mulhouse, il se trouve qu'ils sont en zone sensible, donc ils ont des financements pour faire ce genre d'atelier. Et puis, en plus, les assos qui pratiquent ça, franchement, je ne vais pas dire toutes, mais la plupart ont du mal à payer leurs salariés, à financer leur développement. On n'a plus d'emplois aidés, par exemple. Il y a des subventions, appels à projets, c'est à chaque fois plus serré. Faut le dire quand même, à un moment, il faut assumer aussi le fait que ce sont beaucoup les assos d'éducation populaire peu soutenus qui sont sur ce terrain-là. Et puis après, c'est toujours l'extérieure question, à quel point il faut dépendre des subventions ou les éviter à tout prix. Mais tel qu'on pratique l'éducation aux médias, c'est toujours quelque part avec l'État, c'est-à-dire avec nous-mêmes, avec l'argent de tous les contribuables, quoi.
Jeanne Roy de MNE est autour de la table avec nous et est en train de bouillir d'impatience. Qu'est-ce que tu veux nous dire ?
Non, mais moi, je pratique pas tellement l'éducation aux médias au quotidien, mais j'ai entendu par exemple sur France Inter que maintenant il y a également des émissions d'éducation aux médias, donc chez Radio France. Et j'ai l'impression que là, l'évolution d'éducation aux médias, ça va être qu'elle va passer de plus en plus dans la main du gouvernement, de l'État, et que du coup, elle sera de moins en moins dans les mains des associations. Pour moi, ça, c'est quand même un tout début de... C'est peut-être un mot exagéré, mais de propagande ou de dictature, puisque au final, si c'est l'État qui nous dit comment lire les médias, c'est l'État qui nous dit ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc voilà, moi c'est un peu ça qui me fait peur dans l'éducation aux médias. Je sais, c'est pas très positif, mais j'ai l'impression que ça tourne un petit peu comme ça actuellement. Donc, voilà.
Et d'autant plus qu'il y a pas mal d'ateliers d'éducation média qui sont faits par les médias nationaux, les médias qui appartiennent à l'État, justement.
Ou des privés aussi.
France Inter, France Bleu, ou des privés.
Hein. Comme l'Alsace, le journal d'un jour, c'est une des premières actions d'éducation aux médias il y a 30 ans. Hein.
Ouais.
Et du coup, c'est possible que ces subventions aillent malheureusement à ces médias-là, à ces gens qui font l'éducation aux médias, certes, mais pas de la façon dont on la voit. Et c'est pour ça qu'il faut se rassembler, comme vous le dites, maintenant, je crois. Donc on fait passer le mot à tous nos auditeurs, l'éducation aux médias pour tous et l'éducation pour tous. Et une petite pause musicale, on va enchaîner avec « Haut-parleur » de Joe Corbeau.
Entrez, entrez dans le grand cirque planétaire. Venez, soyez sans crainte si vous êtes sincère. Fini le temps des larmes, c'est par le rire que l'on espère. Changez le cours du temps et abordez la nouvelle ère, car... Moi, je suis le haut-parleur populaire. Lorsque ma voix s'élève par-dessus toute la terre, c'est le son d'un système qui va abolir les frontières. Le jour où les tyrans se terreront dans les tanières, le sang des innocents s'est écoulé dans les rivières. Beaucoup trop de victimes de ce terrible âge de fer. Quand les grands de ce monde se sont partagés l'univers, ont divisé les peuples et pollué notre atmosphère. Détruisent les forêts, imposent leurs idées, détournent nos projets, réduisent nos rêves en poussière. Parleur populaire, lorsque ma voix s'élève.
lève par-dessus toute la terre. C'est le son d'un système qui va abolir les frontières. Le jour où les tyrans se terreront dans les tanières, qui sème le venin dans les veines de mes frères, qui en deviennent esclaves, ne respectent ni père ni mère. En échange de ce poison, ils vendent des armes de guerre, contrôlent le marché et font de très bonnes affaires. L'économie du pays, grâce à ceci, est bien prospère, sauf bien sûr pour ceux qui sont toujours dans la misère.
Nous sommes toujours au Festi Débat à Cévennes sur MNE. Alors nous avons sur la table plein d'invités super chouettes. Nous avons Christian Rubecki de l'Alterpresse 68, donc un média en ligne sur le département du Haut-Rhin. Nous avons Jocelyn Perret qui est pigiste correspondant pour Le Nouveau Jour J et L'Utopique, qui est également auteur de l'ouvrage L'épopée alsacienne du Dreyeckland de 1970 à 1981, une décennie de lutte écologiste, citoyenne et transfrontalière. Et également de l'ouvrage « La voix des oreilles ». Et nous avons en exclusivité mondiale Jacques Béra, un ancien de Radio Verte Fessenheim, qui nous parlera de la création de cette radio. Alors, on va commencer par toi, Jacques. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est que cette radio ?
Oui, absolument. Donc, je peux vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme dans la chanson d'Aznavour. C'était presque la préhistoire, c'était il y a 40 ans. On a un peu du mal à se souvenir, mais c'était l'époque de Fessenheim. Fessenheim qui s'est mis en marche en 1976, c'était des luttes antinucléaires. On avait sur la vallée de la Dolère aussi l'armée qui voulait acheter un terrain de 220 hectares pour y faire un camp militaire. Ça nous a fait un peu penser à Mini-Larzac. Et donc on était un peu motivés dans la vallée. Et c'était l'époque où il y avait donc Radio Verte Fessenheim, donc une radio associative qui émettait uniquement, c'était complètement archaïque puisque ça émettait que le vendredi soir à 8h moins le quart pendant 3 quarts d'heure, je crois. Donc, c'était. On avait un petit magnétophone, on avait un petit émetteur avec une antenne, je ne sais pas qui c'est qui l'avait fabriqué. On avait ça dans toutes les vallées, c'est-à-dire dans chaque coin, parce qu'on ne couvrait pas grand-chose. Donc, il fallait, donc, tous les vendredis soirs, à 8h moins le quart, il fallait être prêt, en montagne de préférence, avec une belle vue sur la vallée pour qu'on couvre toute la vallée. Donc c'était des émetteurs qui étaient fabriqués artisanalement, hein, c'est-à-dire c'était totalement interdit. On risquait gros, hein, puisque il y avait
il y avait un monopole de la radiodiffusion.
Il y avait le monopole, et puis il y avait la société française de diffusion, je crois.
Il y avait l'ORTF.
Un jour on est allé émettre, et puis on arrivait à nous localiser, donc on a entendu les bruits dans la forêt. On a laissé tout le matériel sur place et on est parti. Et bien sûr, ils n'ont pas trouvé, mais bon, c'était quand même c'était chaud par moment. Et c'était une histoire très très intéressante. Et puis moi ça me fait plaisir de voir qu'aujourd'hui il y a des radios associatives qui continuent. Donc c'était après on a eu 81, l'élection de Mitterrand, où soi-disant les radios sont devenues des radios, enfin, les radios libres étaient autorisées, et très vite malheureusement ce sont devenues des radios commerciales. Et je pense que Jocelyn peut en parler un peu plus, parce qu'il était venu Radio Verte Fessenheim qui s'est transformé en Radio Dreyeckland et qui est devenu après une radio tout à fait commerciale, quoi. Et c'est un peu dommage, ça fait plaisir de voir qu'il y a des radios aujourd'hui comme MNE, et puis qu'il y a des jeunes là qui reprennent, et puis voilà, ça me fait, moi l'ancien, ça me fait plaisir.
Et avant que Jocelyn tu précises un peu, pour qu'on se rende compte, nous qui sommes plus jeunes, qu'est-ce que vous risquiez concrètement, vu que c'était illégal d'émettre?
Oh, je sais plus ce qu'on risquait, mais...
1 an de prison et 10 000 francs d'amende, donc en 77.
Pour la petite histoire quand même, on avait aussi il y avait beaucoup de choses qui se passaient à l'époque, et à un moment donné on voulait faire un permis de recherche d'uranium dans le massif du Ballon d'Alsace, Ballon de Servance. Et donc bon, bien sûr on était aussi opposés, parce qu'on était déjà opposés au nucléaire à l'époque. Et on a fait une émission vraiment sur la place publique, c'était chez moi à domicile d'ailleurs. On avait un émetteur sur le balcon chez ma mère, parce que ma mère, elle habite à l'étage. On émettait plus haut, en montagne. Et il y avait, à l'époque, il y avait un député qui était avec nous. C'était un député du Parti Socialiste qui était Raymond Forny. Et il y avait également le conseil général et il y avait également des maires qui étaient avec nous. Donc là, personne n'osait intervenir. Et puis c'est une émission qui s'est très très bien passée.
Jocelyn, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est devenu cette radio une fois qu'elle a, elle a fermé? Qu'est-ce qui s'est passé?
La radio en tant que telle n'a pas fermé. Donc, disons qu'en 80, en effet, Mitterrand a été élu et il a promis qu'il allait ouvrir les ondes et régulariser, entre guillemets, et donner des fréquences aux radios pirates. En 81, c'est ce qu'il a annoncé. Il ne l'a pas fait avant 83. De 80 à 83, les perquisitions, les arrestations, les confiscations de matériel ont continué. Donc pendant 2 ans sous Mitterrand, ce qui lui a permis à lui d'installer dans les régions Radio France. De couper l'herbe sous le pied aux radios pirates qui auraient pu devenir des radios régionales, donc comme Radio Verte Fessenheim, créée en 77, qui était devenue Radio Dreieckland, parce que le Dreieckland, pour ceux qui ne sont pas alsaciens, le Dreieckland, en gros, c'est la grande région autour du Rhin. Donc ça comprend l'Alsace, ça comprend le sud de l'Allemagne et le nord de la Suisse. En gros, c'est une communauté. Enfin, ils ont les mêmes références culturelles, historiques et linguistiques, c'est pas l'allemand. Mais donc le Dreieckland, ça regroupe toutes ces régions-là. Et donc Radio Dreieckland, voilà, c'était vraiment la radio, entre guillemets, régionale. Donc Mitterrand a installé Radio France. En 83, il a autorisé les radios pirates à devenir légales, mais avec énormément de contraintes. Dont une des contraintes, c'était justement la taille et la puissance de l'émetteur. Donc Radio Verte, Fessenheim, Radio Dreieckland n'a pas pu couvrir toute l'Alsace avec un seul émetteur et donc a été obligé de créer 5 antennes du nord au sud. Très rapidement, on va dire les extrêmes nord, extrêmes sud n'ont pas tenu et ont fermé. Et il restait Strasbourg, Colmar, Mulhouse qui ont continué sur une optique, on va dire militante encore, en perdant petit à petit pour se tourner vers le culturel. Et puis, milieu des années 90, il y a eu des problèmes financiers, des problèmes de personnes, autant sur le fond que sur la forme par rapport au fonctionnement de la radio. Mais c'est surtout les problèmes financiers qui ont vu arriver les requins des radios commerciales. Et donc, le groupe qui comprend Nostalgie, Europe 2, et le gars qui représentait ce groupe-là est arrivé en leur disant « Vous avez des problèmes financiers, pas de problème, moi j'ai un chéquier. Par contre, je vous fais un chèque, mais contre le chèque, je veux récupérer l'association. » On ne peut pas acheter une fréquence, hein, c'est le CSA qui l'attribue. Mais par contre, si vous devenez président de l'association à qui a été confiée la fréquence, vous récupérez la fréquence. Et donc, il a fait un chèque, il a récupéré les 2 fréquences, Mulhouse et Strasbourg, et il a en effet développé ces 2 stations et il en a fait des radios commerciales. Musicalement, culturellement, c'est entre guillemets alsacien, mais ce qu'on pourrait dire la mauvaise culture alsacienne, le oumpapa et les trucs assez régionalistes, fermés, qui puent un peu la droite. Sur ces 3 antennes, il n'y en a qu'une qui est restée associative et indépendante, c'est celle de Colmar, RDL 68, donc pour Radio Dreieckland Libre, qui fonctionne comme elle peut avec l'aide nationale de soutien aux radios, où il n'y a aucune publicité. Ils ont perdu le côté militant qu'il y avait sur Radio Verte Fessenheim, donc ils font, on va dire, un travail culturel et d'animation sur Colmar et environ.
Voir ce que c'est la radio, ou qui serait intéressé à travailler pour Radio Dreieckland. Bon, je dis vraiment, on n'a aucun sou, vous n'aurez rien du tout, mais je crois que ça nous intéresserait beaucoup, et vous, si vous êtes intéressé donc à travailler avec Radio Dreieckland, vous pouvez nous téléphoner donc au 47 85 22, ou alors nous écrire à Radio Dreieckland, antenne locale de Colmar et Vignoble, 24 rue du Schlossberg, à Zellenberg.
MNE est une radio, donc, comme tu viens de le dire, transfrontalière, enfin, qui aimerait bien être transfrontalière peut-être, et qui est bloquée par ses frontières, alors que les zones n'ont pas de frontières. Est-ce que MNE collabore avec la radio? Nous venons d'entendre le générique.
Donc là, ouais, on vient d'entendre justement un vieux jingle, hein, de la Dreieckland Libre, je pense, au tout début, puisqu'il n'y avait que 6 chiffres là, dans le numéro de téléphone, si, pour les auditeurs et auditrices qui ont bien suivi. Ben oui, dernièrement, la semaine dernière, Radio MNE s'est déplacée au Parlement européen. Et on a remplacé notre matinale par celle de Colmar, donc de Dreieckland Libre. Et j'ajoute aussi, du coup, qu'il y a aussi la radio Dreieckland allemande de Freiburg, hein. Donc c'est, du coup, je reviens sur ce que disait Jocelyn, ce côté transfrontalier Dreieckland, Suisse, Allemagne, France. Donc Radio Verte Fessenheim, lui, a fait plein de petites et aussi une commerciale qui a plus de 120 000 auditeurs aujourd'hui en Alsace, la radio Dreieckland. Pas libre, du coup.
Radio Dreieckland commercial. Mais donc 2, parce qu'il y a Radio Dreieckland Strasbourg et Radio Dreieckland Mulhouse. les deux sont devenus commerciales. Et en effet, sur Fribourg et sur Bâle aussi, il y avait des antennes de Radio Verte Fessenheim qui sont devenues Radio Dreieckland également. Celle de Fribourg, c'était aussi compliqué en Allemagne. Ça a été interdit pas mal de temps, beaucoup plus longtemps qu'en France. Et ils ont gardé un aspect beaucoup plus militant que les Radio Dreieckland actuelles, que ce soit Strasbourg, Colmar ou Mulhouse.
On va peut-être continuer l'état des lieux de la radio dans la région. Est-ce qu'il y a d'autres radios libres associatives ? Est-ce qu'il y a d'autres radios associatives qui sont aussi militantes ou qu'on pourrait considérer comme pas pareilles ?
À Mulhouse, on a la chance, Radio MNE ou pas ? C'est une bonne question. C'est une chance pour avoir plus d'auditeurs peut-être. Mais réellement, je pense que Mulhouse est une ville assez grande pour avoir des dizaines de radios associatives encore. Mais en tout cas, il y a MNE à Mulhouse. Et du côté de Strasbourg, il y a des radios associatives, plusieurs. On n'a pas vraiment abordé le sujet des radios associatives communautaires qui existent. Hein. Et à Strasbourg, on a deux radios associatives en modulation de fréquence. Radio en construction, qui est membre du réseau Radio Campus France, mais qui est rattachée à la laiterie, scène musicale de la ville, et qui est très expérimentale. Enfin, pour dire, il y a peu de blabla, il y a peu de reportages, il y a peu de discussions. Et la radio Bienvenue Strasbourg, qui elle est un mélange, un petit peu, il y a un petit peu de tout, mais c'est très musical et un petit peu porté sur le sport et le Racing Club de Strasbourg notamment.
Juste pour compléter, en tant que personne extérieure, et c'est pas pour caresser MNE dans le sens du poil, actuellement, quand on va sur des événements comme le FestiDébat, il n'y a que MNE qu'on va croiser. S'il y a une radio qui a une dynamique intéressante en termes de diversité, d'ouverture et de présence, pour moi c'est MNE. Les autres, je ne dis pas qu'il n'y en a pas certaines qui ont des émissions intéressantes, mais dans leur globalité, c'est en effet vachement des fois tourné vers le culturel. J'ai rien contre le culturel, mais moi ce qui m'intéresse, c'est plus les radios qui portent des messages, qui sont engagées, qui sont présentes sur le terrain, qui vont faire connaître les alternatives, qui vont faire connaître ce qui se passe dans les régions, dans les vallées, dans les fonds de vallées, parce qu'il faut venir jusqu'à Seven, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui manque un peu dans le paysage radiophonique alsacien. Donc heureusement justement que MNE fait une partie de ce travail-là, parce que sinon on serait un petit peu dépourvu.
Je crois qu'il y a une chose à préciser aussi sur le paysage radiophonique alsacien, c'est qu'il n'est pas seulement alsacien, il est aussi très suisse et très allemand. Et donc il y a beaucoup d'autres radios. Après, je ne suis pas sûre que les radios associatives viennent jusqu'en Alsace, les Suisses et les Allemandes. Et à Mulhouse aussi, un truc à préciser, c'est qu'il y a des radios qui ne sont pas en FM, qui sont des radios associatives, comme Radio Éponyme, qui est une radio musicale très pointue et très intéressante, qui n'est pas sur la FM malheureusement, mais, ou peut-être heureusement pour nous, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils nous piqueraient peut-être des auditeurs. Sylvain, tu veux ?
Une petite précision en fait sur ce que tu viens de dire vraiment sur les radios suisses à Mulhouse en fait, dans le sud de l'Alsace on capte aussi Radio Couleur 3 qui fait partie du service public suisse et qui est une radio essentiellement musicale qui n'a aucune pub hein, mais qui avait, enfin qui a peut-être encore, je ne l'écoute plus, mais un certain rapport à l'actualité, à l'info en général qui était assez satirique, assez de gauche on va dire, et culturellement relativement pointu, donc ça a donné, enfin moi ça m'a, c'est Couleur 3 qui m'a donné goût à la radio. Hein.
Alors du coup, s'il n'y a pas tant de radios associatives, pas pareil, en Alsace, il n'y a pas beaucoup de médias papier non plus, il n'y a pas de papier en version non numérique. Vous, l'Alterpresse 68, vous êtes un mensuel en version numérique, comment ça se passe ?
Non, c'est né il y a 3 ans avec l'idée d'avoir sur support net, en ligne, avec un renouvellement des articles, on va dire l'ambition initiale de l'ordre de la semaine. Une expression un petit peu pluraliste, absolument indépendante, clairement orientée vers des problèmes sociétaux avec une lecture qu'on qualifierait volontiers de gauche, que je qualifierais moi beaucoup plus d'indépendance absolue, un peu dans l'esprit et en gardant le sens de la mesure. La référence intellectuelle pourrait être Mediapart, mais avec la conscience de ce que nous sommes et de ce qu'ils sont. Voilà. Mais l'esprit était celui-là. Alors l'évolution, eh ben, c'est celle-là, avec des articles qui essaient de relater les questions sociales actuelles. Je pense par exemple au conflit SNCF, où on a écrit récemment des articles. Je pense à des articles qui sont des articles vécues. Ce ne sont pas des reprises qui sont des articles authentiques, notamment par rapport au conflit Palestine-Israël, parce qu'on est assez souvent en Palestine et parce qu'on peut, on peut en parler. Je parle bien sûr des engagements liés à des problèmes environnementaux. Alors, je pense à Stockamine, je pense à Fessenheim, bon, etc. Donc la dimension est vraiment engagée, mais avec un esprit en aucun cas lié à un parti, à un clan, et une indépendance de ton radicale. Et des partenariats recherchés, notamment avec des médias, en particulier Radio MNE.
Et quand tu parles d'indépendance, ça veut dire que vous êtes dépendant seulement de l'abonnement de vos lecteurs ?
Totalement, c'est totalement bénévole. C'est d'ailleurs évidemment parfois une difficulté, parce que les moyens derrière sont très faibles. Mais ça ne peut, en l'état actuel des choses, que rester bénévole. C'est une faiblesse, mais c'est une force aussi. Mais
votre site d'information est gratuit, entièrement gratuit.
Totalement. Les articles changent tous les 8, 10 jours, voire semaines, en fonction de des apports qu'on nous fait. Et on ouvre volontiers le média, avec un contrôle minimum, et c'est vraiment pour ne pas passer n'importe quoi, aux gens qui ont envie de s'y exprimer et de dire quelque chose.
Est-ce que vous seriez partisan pour vous grouper avec les autres médias présents ici afin de faire l'éducation média tous ensemble ?
Personnellement, je suis pour des synergies les plus larges possibles. Et la dimension transfrontalière, alors pour revenir à ce que disait Jeanne, je crois, c'est fondamental. Ce qui est également fondamental, c'est qu'on n'est pas à Strasbourg, on est à Mulhouse, mais enfin on n'est pas si loin que ça du Parlement européen. Et donc il me semble que les axes de réflexion et de développement sont là. Le transfrontalier, le partenariat, si on n'est pas capable de s'emparer de ça, on bricolera, on continuera à bricoler, ce qui n'est pas désagréable.
Parce que si on fait un état des lieux de la presse dans le coin, on a aussi Sylvain qui est toujours avec nous et qui est également correspondant, pigiste occasionnel pour la PQR du coin, donc notamment le journal L'Alsace. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a comme journaux par ici ?
Effectivement, c'est le paysage, il est dominé par l'Alsace et les dernières nouvelles d'Alsace qui, je ne vais pas dire que c'est en fait un seul et même journal, mais ils appartiennent tous les deux, comme l'ensemble des journaux de PQR dans l'Est, au groupe de presse du Crédit Mutuel. Voilà, donc il y a une énorme partie des deux journaux qui sont en fait identiques. Hein, tout le côté national, info générale, sportif en grande partie, et même local en grande partie, c'est en fait le même journal. Donc il y a des conséquences. Oui, les DNA sont plutôt vendus à Strasbourg, Bas-Rhin. L'Alsace est vraiment basée à Mulhouse, Sud-Alsace, jusqu'à Colmar, etc. Donc ça existe encore là, ça vaut encore le coup pour eux d'avoir les deux marques distinctes, en tout cas.
Une fusion des deux. Je pense que les deux journaux vont fusionner dans peu de temps.
Ça reste à voir, mais je crois qu'au niveau du marché publicitaire, des vieux abonnés, etc., ça vaut vraiment le coup d'avoir les deux marques, parce que ça ne va pas forcément être les mêmes. Justement, ils vont pouvoir vendre deux fois la même pub. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui fait que c'est fusionné. Mais par exemple, l'imprimerie de l'Alsace à Mulhouse, c'est un gros conflit social à Mulhouse en ce moment, hein, est sur le point de fermer. Avec je ne sais plus combien de licenciements, 70 licenciements à la clé, puisque l'Alsace va être imprimée désormais à Strasbourg. Voilà.
Sur le site des DNA.
Merci Jack, ouais, sur le site des DNA, tout à fait. Il y a quelques journaux satiriques aussi, Hebdi, Tonic, qui font pas mal dans le sensationnalisme quand même. Quelquefois, il y a des affaires qui sortent, comme l'affaire, comment elle s'appelle là, celle qui est morte, parce que le SAMU n'avait pas pris au sérieux son appel. Là, ça fait un gros scandale national. C'est Hebdi quand même, hein, qui avait trouvé l'enregistrement de la conversation téléphonique. Bon, voilà, je ne vais pas refaire toute l'histoire, hein, pour ceux qui ne la connaisseraient pas, mais quand même, hein, ça a eu un impact national. À part ça, franchement, voilà, il y a Rue 89 Strasbourg qui a quelquefois des bons articles, hein, quand même. Qui est sur le net, oui, c'est vrai qu'on parlait du papier.
Jocelyn, je te vois froncer des yeux quand on parle de Hebdi et Tonic. Tu penses que c'est des médias libres, indépendants?
Ils ne sont pas du tout indépendants, c'est gorgé de publicité. Et là, tu cites peut-être la seule affaire sérieuse où ils ont peut-être fait un travail, et encore, ils ont eu de la chance, parce qu'on ne sait pas comment ils se sont procurés l'enregistrement. Hebdi et Tonic, entre guillemets, quand on parle de la mauvaise presse, UPQR et autres, on dit la rubrique des chiens écrasés, c'est presque que ça. C'est t'as un problème avec ton voisin parce que son chien vient chier sur le trottoir devant rentrant chez toi, tu vas écrire un article dans Tony ou Eddy. Je veux dire, c'est pas du tout une presse militante. C'est des gens qui occupent un créneau en se disant alternatif, en se disant indépendant, mais qui, où c'est bourré de publicité et où il n'y a rien. C'est une coquille creuse, il n'y a rien dedans. Tu lis ça, je ne sais même pas pourquoi tu le lis d'ailleurs. Je ne vois pas l'intérêt. Je pense que c'est des gens qui se financent, qui se salarient grâce à la pub et aux quelques abonnés. C'est pas les abonnés qui les font vivre, c'est pas les lecteurs, c'est la pub. Donc il y en a quelques-uns qui ont trouvé un créneau, ça leur permet de vivre et de se faire de l'argent. Mais pour moi, c'est pas de la presse.
Et... Enfin, c'est pas de la PQR, c'est de la PQU.
Ouais, voilà, PQ tout simple. Quoi. Bon, moi, j'ai pas mal de soucis avec tout ce qui est presse en ligne parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très fermé. C'est-à-dire que qui va aller lire l'Alter Press 68 ? Nous. Mais parce qu'on est informé et c'est très compliqué en fin de compte d'aller vers cette presse quand elle est uniquement sur les sites internet et moi j'ai énormément de soutien et d'envie pour qu'il y ait du journal papier qui soit diffusé parce que là c'est visible, on peut être présent dans les kiosques, on peut être présent sur des stands, on peut être présent sur des événements, on peut être présent à plein d'endroits différents et donc je pense que là il y a quelque chose à faire, il faut qu'on le reprenne comme à Nancy justement, bon de temps en temps je fais des petits trucs pour le Nouveau Jour J, c'est un journal militant sans publicité qui est investi sur Nancy et ses enfants. Environ, ils sont irrégulomadaires, mais quand ils sortent un numéro, il y a quelque chose dedans. C'est complet. On n'est pas, bon, Fakir, qui maintenant, eux, sont devenus au niveau national, mais on voit CQFD, on voit des journaux comme ça, qui sont un mélange entre des combats, enfin, ou des informations locales, Marseille et environ, et des informations nationales. Entre guillemets, je dirais qu'actuellement, mais c'est pareil, c'est un irrégulomadaire, ils en ont sorti 5 exemplaires, et le dernier, il est quasiment sorti en septembre 2017. C'est Béton et Bifton. Là, c'est de la presse de lutte. Et donc, ce n'est pas de la presse en lutte, parce que là, c'est plus généraliste. Là, c'est la presse de lutte, c'est-à-dire que c'est un journal de 4 pages qui est là pour informer sur la lutte contre le projet de grand contournement ouest de Strasbourg. Il diffuse à 10 ou 15 000 exemplaires. C'est autofinancé par les associations, les adhérents, les militants. Ils n'ont aucune dépendance financière avec aucun groupe, aucune publicité. Et ils sont là pour contrer la propagande de Vinci. Ils sont principalement diffusés dans les villages qui sont concernés par le projet de grand contournement ouest. Mais là, au moins, il y a de l'info, il y a de l'argumentaire. Ils s'ouvrent un petit peu, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas énormément de pages, mais ils s'ouvrent sur les autres luttes comme l'A45 à côté de Saint-Étienne quand il y avait Notre-Dame-des-Landes également sur les projets de Saint-Heurparc à Roibon ou à Poligny donc là au moins on est sur un journal de lutte, un journal où il y a de l'information et où on n'a pas de la pub et des chiens écrasés à toutes les pages.
Et du coup j'ajoutais juste pour les auditeurs et auditrices de Presse Libérée, les habitués, que du coup le Nouveau Jour J, t'en parlais avant, est à Nancy et que l'Alsace, enfin c'est une émission Presse Libérée qui est itinérante, donc Nancy c'est presque notre presse maintenant puisqu'il y a donc le Grand Est, donc Nancy, la Lorraine sont les voisins et il y a aussi l'Utopique, c'est pas dans le Grand Est mais c'est à Besançon qui est aussi très, très copain, donc, et ils parlent souvent de Mulhouse, donc oui aussi Mulhousien, Mulhousienne, on a un petit peu, c'est finalement ce que tu disais, le lectorat, ils sont peut-être même pas au courant qu'il y a des trucs sympas
L'Utopique, bon, ils travaillent plus sur dossier, c'est pas forcément une presse locale, militante locale, hein, ils sont complètement indépendants, il n'y a pas de pub, ils se débrouillent comme ils peuvent pour survivre, ils travaillent voilà, sur des dossiers, sur des grandes questions, ils abordent des sujets qui peuvent être divers et variés. C'est pas une presse locale comme le Nouveau Jour J, mais ils sont dans cette dynamique de presse indépendante. En France, il y a quand même un vivier de presse indépendante. Dans toutes les régions, ça existe. Donc, soit comme ces journaux-là, Nouveau Jour J, on a des journaux de lutte, que moi j'appelle des journaux de lutte comme Béton et Bifton, et ça foisonne. Et en fin de compte, moi je me dis, mais il faut qu'on arrive à faire en sorte que cette presse-là, elle soit visible. Pour moi, la presse papier, c'est que c'est visible. Et c'est par ce biais-là qu'on va pouvoir informer, faire de l'éducation aux médias, mais également peut-être reprendre une certaine citoyenneté et ce justement je me tourne vers Jacques mais en fin de compte c'était ça aussi quand il y avait eu le printemps des radios pirates en France en 77, Radio Verte Fessenheim, c'était on reprend la main sur les médias, il y avait un monopole, les journaux c'était les mêmes qu'actuellement, hein. Les radios, bah, il y avait les radios nationales ou les radios qu'on appelait périphériques, RTL, Europe 1, mais qui en fin de compte étaient aux mains de l'État français également, et qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu une volonté des citoyens de reprendre en main l'information, les médias, avec d'abord, on va dire une explosion de la presse papier. Hein, en Alsace, il y a eu le Klapperstein 68, en 72, il y a eu Symfolique en 72, 73, 74, 75, ça a eu une explosion en France de médias papier. 77, ça a été l'explosion des radios pirates. Je crois qu'en 6 mois, il y avait plus d'une 100 ou 200 radios pirates qui avaient été créées en France. Une bonne partie était uniquement sur du culturel, mais une bonne partie aussi était là, c'était des radios qui, en fin de compte, faisaient de l'information.
Et on va vous laisser avec une nouvelle pause musicale. Ce sera System of a Down, I Am on Television.
quelqu'un qui l'entendra et puis ça ressortira.
Vous êtes toujours sur Presse Libérée en direct sur Radio MNE à Mulhouse, l'émission mensuelle qui parle des médias libres, indépendants, pas pareil.
MNE, radio libre.
Ou presque.
Au soleil.
On parle de radio libre et on a dit qu'il y avait assez peu de médias indépendants, de médias libres ici. Alors c'est peut-être le moment de se dire un peu qu'est-ce que c'est qu'un média libre, qu'est-ce que c'est qu'un média indépendant, à quel moment on peut considérer que vous êtes vraiment des médias libres, peut-être parce que vous faites de l'actualité, que vous faites de l'information, notamment grâce à la matinale. Alors nous avons avec nous, quelle chance, nous avons Jeanne Roy qui est ici et qui anime la matinale de MNE. Alors est-ce que tu peux nous dire à quoi ça consiste ton rapport à l'information en tant qu'information alternative ?
Je pense que la base de l'information, en tout cas chez MNE, c'est le côté local qui est très important. Et je pense qu'il fait aussi un peu l'identité de la presse libre et des médias libres parce qu'ils sont implantés dans un territoire, ils sont là, présents, ils sont accessibles, les portes sont ouvertes. C'est-à-dire que c'était un des slogans de la radio, je crois. Tu peux entendre ton voisin parler de sexe et de politique. C'est-à-dire que vraiment, tu entends des gens que tu connais, que tu peux revoir, que tu peux aller rencontrer s'ils t'ont intéressé. Et donc, finalement, c'est une des premières choses pour l'info, en tout cas sur MNE. Et après, c'est l'autre côté, c'est ouvrir tout ça aux autres, quoi, au reste du monde, au reste de la France. Parler de Mulhouse autrement, là, en l'occurrence, pour nous, c'est un peu ça. Parler de Cévennes autrement, parler de... Voilà, on est à Cévennes aussi pour ça. On bouge beaucoup avec le studio mobile aussi pour cette raison-là, quoi, pour être présent et montrer que le micro est ouvert.
Tout simplement, en fait, quand je l'ai dit avant, on a parlé de Radio Verte Fessenheim, on a parlé de WNE, on a parlé de trucs où j'étais pas né. Ce qui fait que je suis un peu un héritier de tout ça. On est arrivé là, moi je rappelle et je le dis au passage justement aux gens qui ne sont pas des médias, qui n'ont pas fait d'école de journalisme. Aujourd'hui, je suis responsable d'antenne d'une radio associative. C'est un truc qui ressemble à un 35 heures avec un SMIC au bout. C'est un boulot comme un autre, mais en même temps, c'est un boulot hyper intéressant parce que il y a cette énergie-là de lutte qui est présente réellement. Et avoir créé une matinale hebdo, au début, pour moi, qui venait de la menuiserie, j'avais 5 ans dans le bâtiment. Ensuite, avant ça, j'avais fait un petit passage dans les médias quand même via la photographie avec un CAP et bac pro photo pour dire qu'il n'y a pas besoin de, pour faire du média, pour écrire, on le voit avec les jeunes en éducation aux médias. Chacun est un média aujourd'hui. Faut pas avoir peur du micro, faut pas avoir peur de la technique ou n'importe quoi. Tout ça, c'est de la technologie contrôlable à l'heure de Facebook Live. Et voilà, la matinale. Elle est née d'un besoin d'information. Cette radio, elle a eu la FM en 2014, septembre. La première matinale, c'était en novembre 2014. Et ça ne s'est plus jamais arrêté. Ça n'a que évolué. Et que dans le bon sens. Vraiment que dans le bon sens, puisque c'est ce qui a fait grandir MNE en 4 ans.
On souhaite bon vent à MNE, on espère que vous continuerez à rayonner sur les ondes et nous envoyer plein de bonnes énergies. On va écouter monsieur Sébastien Boistel, notre chroniqueur préféré, qui est président de Médias Citoyens PACA et qui n'a malheureusement pas pu venir avec nous.
Nous sommes aussi le service public. Il est étrange le cri que vont pousser les radios associatives et les médias de proximité qui seront réunis la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Non, rassurez-vous. Ce n'est pas parce que le gouvernement, à la veille de la réforme de l'audiovisuel public, a voulu entendre tout le monde, et notamment les représentants ou acteurs du tiers secteur médiatique, c'est parce que Radio Campus a fait le forcing auprès de quelques députés En Marche pour avoir Royal le droit d'occuper la salle Colbert. Nous sommes aussi le service public. Étrange cri. Est-ce à dire que les médias indépendants, libres, citoyens, pas pareils, font eux aussi un boulot d'intérêt général, un boulot digne d'un service public et qu'en conséquence, il serait tout à fait légitime que ces médias, qui n'ont rien ou pas grand-chose, aient droit à quelques subsides? Ou alors, est-ce que, hashtag MeToo, le tiers secteur médiatique, lui aussi, va se faire laminer comme cela semble se profiler pour l'audiovisuel public? Car cette semaine, le gouvernement va décliner sa réforme de l'audiovisuel public. C'est un grand classique. Quand on ne sait pas quoi faire, quand on ne sait pas sur quoi pester, passer ses nerfs, il y a toujours ce bon vieux transistor qui grésille dans la cuisine, ou cette vieille télé qui n'est même plus assez large pour qu'on puisse y poser bibelots et photos de famille. Ouais. Pour les moins de 20 ans, avant la télé, c'est une grosse boîte un peu plus épaisse qu'un smartphone. Et ça tombe bien, Françoise Nyssen, la sinistre de la culture, pour une femme de lettres, elle n'a pas beaucoup d'idées. Heureusement, d'autres en ont pour elle. Et rendez-vous compte, une radio et une télé publiques, à l'heure du plurimédia et du web à 15-0. C'est quoi ces dinosaures qui se contentent encore d'enregistrer du son? Faut des images, Coco. Et si tu sais tenir un micro, tu sais porter une caméra. Puis un smartphone, pour tweeter en même temps. Parce que pour Macron, la honte de la République, c'est pas la prison. Ce ne sont pas les écoles, ce n'est pas l'hôpital, c'est l'audiovisuel public. D'où une réforme au forceps qui va être annoncée la semaine prochaine. Une réforme sur laquelle on a peu d'informations, si ce n'est les quelques mots-clés qui résument sa philosophie. Efficacité, synergie, économie. Pas étonnant qu'elle soit accueillie avec un certain fatalisme. Au point qu'un ancien de Radio Campus, qui travaille depuis à France Culture, est lâché. Quand il n'y aura plus d'audiovisuel public, au moins il restera les radios associatives. Nous sommes donc aussi le service public. Et c'est ce que l'on va rappeler le 9 juin à Aix, dans le cadre de la journée de lancement des rencontres économiques. C'est aussi ce que l'on va rappeler au festival Les Suds à Arles, dans la ville de la ministre de la Culture, s'il vous plaît, dans une journée de réflexion début juillet, autour des médias de proximité. D'autant qu'on nous demande encore et toujours des missions de service public, d'intérêt général, pour peu qu'on réclame quelque argent public pour justifier les quelques sous qu'on nous octroie, voilà, obligé de prouver qu'on lutte contre la désertification dans les campagnes, qu'on fait reculer la misère, qu'on rebouche le trou de la couche d'ozone et qu'en moins de 48 heures, on fait revenir l'être aimé. Et tout cela pour rien. Parce que dans le tiers secteur médiatique, le Nirvana, c'est un contrat aidé. Quand le ministère de la Culture vous octroie moins de 10 000 euros pour mener des ateliers en milieu scolaire pour que les gosses soient Charlie, c'est Byzance. Alors oui, on est aussi le service public. On est même mieux, parce qu'on n'a jamais connu l'âge d'or.
Et nous avons également contacté Nicolas Horbert, qui est délégué national de Radio Campus France, afin de lui parler de cette rencontre.
Bah moi, je suis responsable du réseau, qui sont donc une fédération de radios, des plus jeunes et des plus vieilles radios, des radios associatives d'éducation populaire, qui sont rejoints dans les années 90, il y en avait 6 ou 7. Aujourd'hui, elles sont 29. Il y en a un paquet qui ont profité de l'accompagnement du réseau pour faire des dossiers, des subs, demandes de subs, faire des relations publiques, faire un dossier de demande de fréquence FM, etc. Enfin voilà, tout un ensemble de choses. Aussi faire des programmes en commun, ça c'est plus mon collègue. Donc le réseau, c'est vraiment essayer d'avoir une voix commune sur des médias locaux, des médias de proximité, comme les Radio Campus, qui sont gérés par des étudiants. Et c'est la voie de l'avenir. Hein. Moi, je pense que les médias, là, tiers secteur, vont se faire parler d'eux dans les années à venir, hein, dans cette imbroglio de difficultés à produire de l'information sérieuse quand on est contraint par des raisons, par des contraintes économiques. Voilà, grosso modo, quoi, un petit peu mon boulot. On organise des événements. Par exemple, on fait un débat la semaine prochaine. On a un peu sollicité des députés majoritaires pour leur dire, voilà, nous aussi, on est le service public. Évidemment, hein, dans la loi sont inscrites des missions de communication sociale de proximité. Pour ça, on touche des moyens financiers de l'État, d'ailleurs. Donc, d'une certaine manière, on rend un service d'intérêt général. On travaille pour l'intérêt général. Et on est de plus en plus sollicité. Par contre, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de moyens. Donc, ce sera l'occasion d'en discuter pendant le débat la semaine prochaine.
Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce débat, alors?
Espérer de ce débat, c'est déjà qu'on ait des oreilles un peu plus attentives, des gens qui sont un peu plus sensibilisés à ce que sont les radios associatives. Parce qu'en réalité, ils savent pas. Hein. Quand vous dites radio à quelqu'un, il comprend audience, pub, musique. Il comprend pas que c'est une asso qui accueille des gens, qui leur montre de l'intérieur comment fonctionne un média, qui vous fait découvrir des musiques d'ailleurs que vous n'entendez nulle part ailleurs, mais pas que des musiques, de l'art, du théâtre, qui vous fait réfléchir à ce qu'est la société, qui vous fait réfléchir à ce qu'est une entreprise, à l'économie, à l'associatif, au social, au culturel, quoi. Il y a peu d'endroits comme ça, hein. Il y a un petit peu le service public, qui fait un travail peut-être plus important d'ailleurs sur, je dirais, les questions documentaires, par exemple, où nous c'est plus difficile, mais sinon les sujets sont plus divers dans les radios associatives qu'ils ne le sont dans de nombreuses autres radios, quoi. Donc ce débat, qu'est-ce qu'on en attend, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on essaie de positionner de plus en plus ces médias, je dirais, dans l'esprit des gens. Il faut peut-être commencer par les politiques, puisqu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas bien. Enfin, pas tous, évidemment, mais la plupart.
On ne veut pas être catastrophiste, mais plutôt réaliste. Alors, comme vous l'avez compris, la situation nationale au niveau des médias libres n'est pas brillante. Et au niveau local, en Alsace, ça ne l'est pas non plus. Mais on espère que ça va aller dans le bon sens et au contraire, que ça ne va pas régresser. À voir, à suivre ce débat de près et la réforme de l'audiovisuel amenée par Macron et toute sa clique. Alors, on va vous laisser ici. Et avant de vous laisser, on va quand même remercier le festival FestiDébat où nous sommes en direct pour clôturer ce troisième festival ouvert de l'éducation aux médias, toujours en direct avec Radio MNE. Et donc, nous accueillons Jérôme et Mathieu qui organisent ce festival, et Mathieu est également opérateur à la communication chez MNE. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce festival et sur le lien entre les deux?
Ce qui est intéressant du coup dans l'organisation d'un festival comme ça, c'est qu'on peut faire intervenir
beaucoup de différents acteurs, dont Radio MNE, et on est très heureux de vous accueillir cette année, mais aussi plein de beaux intervenants, que ce soit du milieu associatif ou d'autres milieux militants, politiques, et de les faire se rencontrer avec des populations locales, comme à Cévennes, dans une vallée au fond de l'Alsace sud-ouest. Et c'est ça, en fait, je pense, Jérôme, est-ce que tu peux expliquer peut-être la base de ce projet?
Oui, alors en fait, Festi Débat fait partie d'un groupe de copains, finalement, il y a une douzaine d'années. On aime bien faire la fête, mais on aime aussi un petit peu se poser des questions, réfléchir un peu sur ce qui se passe autour de nous. Donc on s'est dit on pourrait faire un petit truc dans notre village, et voilà, c'est là qu'est parti le Festi Débat. Hein. Comme son nom l'indique, c'est combiné en fait des moments de réflexion avec des moments beaucoup plus festifs. Et donc là, c'est la 12e édition qu'on organise, et cette année le thème de l'inégalité femmes-hommes. Voilà, on aime bien faire aborder des sujets qui sont clivants, sur lesquels il y a matière à discuter. Et c'est vrai qu'aborder des sujets comme ça, pas forcément en ville, où on n'a que des personnes convaincues qui viennent discuter entre eux, ça nous tient à cœur de faire se rencontrer des personnes différentes, surtout, voilà.
Oui, d'ailleurs, à propos de l'égalité femmes-hommes, je tiens à préciser que cette émission n'a pas été très, très efficace là-dessus, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de femmes autour de ce plateau. Malheureusement, MNE combat là-dessus aussi, mais c'est parfois difficile.
On aurait bien aimé, malheureusement, tous les invités n'étaient pas là, mais on pourrait vraiment réfléchir sur le fait que dans les milieux, les médias associatifs et l'associatif en général, il y a quand même souvent plus d'hommes, malheureusement, et notamment dans les postes à responsabilité.
On confirme, pour fait qu'il est bas, c'est pareil.
Et oui, toujours pas, donc il y a encore du boulot. Alors du coup, on va clôturer ici Presse Libérée, on va saluer toutes les radios qui nous diffusent. Alors on a Fréquence Paris Pluriel, on a Radio Béton à Tours, Radio Zinzine, Radio Galère, en Corse, Nebia Campus Corté, dans les Alpes, on a Radio Happy Meyer et Radio Dragon, et à Bordeaux, on a La Clé des Ondes, et bien évidemment, MNE à Mulhouse. On salue à la technique Luc Huberschlag qui a tout donné malgré les difficultés techniques. Et d'ailleurs, nos deux invités de Festi Débat s'en vont en nous laissant avec un seul micro. Et c'est avec ce micro que nous allons terminer l'émission. Alors, on vous salue et vive la presse libérée.
Attention, mesdemoiselles et mesdames, installez-vous où bientôt le dénouement du drame. Comme tous les jours à la même heure, et c'est depuis des années. Votre feuilleton va commencer. C'est l'histoire d'un jeune cadre sportif et plein de thunes, mais malheureux. Il voudrait offrir la lune à sa femme alcoolique et l'info qui vient de mettre le feu à son dernier château. Mais pourquoi les femmes rock qui vivent des trucs aussi glauques? Parce qu'elles savent qu'à notre époque, très bien le choc. Ils savent aussi que les gens éprouvent du bonheur. Ne muscle jamais autre chose que ton petit doigt, car c'est la seule partie de ton corps qui bang, que je vois dans toi qui évolue encore. Alors, Zapman, zap tant que tu cours, tant que tu ne muscle jamais autre chose que ton petit doigt, que ton car petit doigt, c'est la seule partie de ton corps,
c'est la seule partie de ton corps
qui évolue encore,
et qui peut encore faire un effort. Alors zap,
allez vas-y zap. De la délectation, c'est de manger pendant les informations. Ça n'est pas grave que les nouvelles soient morbides, tant qu'on les apprend en se gavant le bide.